Nous poursuivons notre lecture de l'évangile de Luc au chapitre 6 et les versets qui nous sont donnés pour aujourd'hui sont les versets 39 à 45. Luc 6, 39 à 45. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun disciple n'est supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur, « Laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite? Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Nous trouvons dans ces lignes des choses qui respirent le bon sens et dont on pourrait faire des principes d'éducation, vous savez, ceux qui sont en tapotant du bout du doigt sur la table face à quelqu'un qui a bien besoin qu'on lui rappelle les règles de la maison. Regarde d'abord dans ton œil, etc. Ça sonne un petit peu comme des principes d'éducation. Hein. Si tu reprends une tranche de pain, tu la finis, etc. Si tu te resserres, tu finis ton assiette, etc. Du bon sens, donc. Mais il y a un besoin qui s'exprime là-dedans comme une nécessité que quelque chose d'extraordinaire se produise. C'est ce qui arrive chaque fois et c'est fréquent dans les évangiles où on nous énonce des choses aussi simples qu'inaccessibles. On sait que c'est vrai, on sait qu'on devrait le faire, mais c'est un objectif encore lointain. Pour éviter une chute inévitable dans l'exemple des aveugles, il faut bien que sur les deux aveugles, il y en ait au moins un des deux qui retrouve la vue. Dans l'idéal, les deux, ce serait mieux, mais au moins un des deux pour que celui qui retrouve la vue guide l'autre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour qu'un arbre se mette à produire de bons fruits alors qu'il est pourri, moribond, comme l'érable que nous avons abattu dans notre jardin, il faut sans doute un savoir-faire de jardinier hors du commun. On peut entretenir un arbre, on a beaucoup plus de mal à le ressusciter quand il est prêt à abattre. Dans toutes les images qui nous sont proposées par Luc, il faut toujours que de l'extraordinaire se glisse là-dedans, surgisse de l'ordinaire. Il faut que l'ordre habituel des choses soit bouleversé et transformé, de fond en comble, pour que ce qui est stérile ou aveugle devienne fécond ou lucide en nous-mêmes. Et pour cela, il faut à chaque fois un miracle, une sorte de miracle. Ça fait évidemment réfléchir à notre capacité de changement et aux différents moyens à employer. Quel genre de miracle, ou à défaut, quelle chimie nous faudra-t-il pour séparer le subtil de l'épais chez nous? Eh bien, c'est par le ministère de Jésus, de son enseignement, et plus tard par la confiance placée en lui par son entourage, par les premières communautés rassemblées autour de la lecture de l'Écriture et de la fraction du pain, que cet élan qui commence ici va se poursuivre petit à petit jusqu'à nous aujourd'hui. Ça peut paraître un peu éloigné, après tout ça fait plus de 20 siècles, c'est vieux tout ça, un peu faiblard même peut-être, de n'avoir que cette espèce d'apparition d'un Jésus comme ça dans l'histoire, comme une météorite, une apparition assez peu bavarde, avec quelques petits enseignements très courts qui tiennent en quelques dizaines de pages, à nous mettre sous la dent en guise de révélation ou de miracle. Ça paraît tellement loin pour que ça produise des effets aussi forts. Mais nous savons bien qu'il n'y a qu'à travers ce ministère que nous pouvons nous hisser au-dessus de ce que nous croyons possible pour nous. C'est lui qui nous hisse, nous tire vers le haut. Si une intervention extérieure nous aide à changer, est-ce qu'elle doit pour autant nous faire changer de nature? Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser en regardant ces petits enseignements. Après tout, enlever la paille qui est dans son œil, c'est un peu cosmétique. Pas de changement radical là-dedans. Et puis, nous changer pour nous transformer en quoi d'autre? Je ne crois pas que nous puissions changer de nature, mais il est bien possible que le message des évangiles, celui de ce matin, comme tous les autres, nous permette de vivre autrement dans le monde tel qu'il est. Ça, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Recevoir un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, comme il est dit dans un autre texte, c'est la même chose. C'est devenir à la fois plus vivant, mais peut-être aussi plus fragile, plus éphémère, et il faut bien l'assumer. Mais plus vivant, en tout cas. De toutes les manières, il faut une intervention extérieure pour que nous devenions ce que nous sommes appelés à être, comme si le Dieu de la Genèse n'arrêtait pas de souffler dans nos narines. Après tout, animer un bloc de pierre ou de terre, comme dans la Genèse, pour le transformer en humain, c'est assez proche de la mutation du cœur de pierre en cœur de chair. L'humain est une sorte de résultat d'un travail divin sur le matériau de départ. Le matériau de départ, c'est nous. Et comme ce processus d'humanisation prend du temps, demande un travail constant, nous n'adhérons pas spontanément au projet. Il faut nous vendre ce projet, nous convaincre que c'est le bon et qu'en plus il s'adresse à nous. Nous n'y adhérons pas spontanément par paresse sans doute, mais aussi peut-être par peur de quitter un état certainement imparfait, mais au moins habituel, à peu près domestiqué et maîtrisé. Lâcher cela pour un inconnu qui nous effraie, et souvent cet inconnu, c'est nous. C'est peut-être nous. Pour essayer de nous passer de cette intervention extérieure, de ce souffle d'air qui nous fait respirer, qui souffle dans nos narines, nous avons recours à nos propres outils, nos propres moyens, des théories, des explications du monde, des choses qui servent de bouche-trou la plupart du temps, et qui finissent par céder, quand on y croit un peu moins, quand elles se sont usées, céder la place à d'autres explications qui nous paraissent meilleures jusqu'à ce qu'elles nous paraissent finalement un peu moins convaincantes que prévues et ainsi de suite. Tous ces systèmes, toutes ces idées ont leur raison d'être, mais elles ne nous sortent pas de notre fragilité. Nous nous trouvons à nouveau démunis à chaque fois qu'il faut en changer face à un travail immense d'éternel recommencement. Que nous nous tournions d'un côté ou de l'autre, finalement, c'est toujours notre vraie nature qui apparaît. Elle est le fruit d'un lent travail de transformation. Nous avons peut-être à tort considéré que la création, vous savez, ce moment où Dieu souffle dans notre argile et nous donne vie, est un acte ponctuel qui s'est un peu perdu dans le passé, un passé immémorial et achevé une fois pour toutes. Nous ne sommes pas encore assez familiers de cette idée que, selon laquelle le processus, peut-être, sûrement même, se poursuit indéfiniment et passe par chacun d'entre nous. Ce n'est pas un fait du passé. Alors il y a sûrement un peu d'intranquillité à attendre de tout cela et il faut sans doute s'y préparer. Si ce que nous appelons « monde » n'est pas une vieille chose qui finit lentement sa vie sous nos pieds, mais une forme de vie en mutation constante avec et autour de nous et dont nous faisons partie, alors nous n'avons pas d'autre choix que de participer à ce mouvement. L'inconvénient, c'est l'effort. L'effort de vivre dans un mouvement constant et la peur bien compréhensible de devoir renoncer à beaucoup de choses et peut-être si le mouvement s'accélère, d'être centrifugé ou estoré. Par la vitesse de rotation d'une machine trop grande pour nous. Mais l'avantage, qui peut-être est considérable, c'est que nous ne sommes plus ni une bizarrerie de la nature, ni une espèce tardive dont la présence pose problème, Nous avons au contraire la chance d'être constamment aux prises avec ce qu'est le monde, parce que nous sommes collés dessus et nous suivons son mouvement. Si la création se poursuit et nécessite notre participation, nous ne sommes ni une anomalie, ni une machine ringarde promise à une disparition prochaine. Nous sommes définitivement et pour toujours actuels. C'est la jeunesse éternelle, finalement. Je suis assez content de moi, d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé la fontaine de Jouvence en moins de 10 pages. J'aurais dû me faire payer, d'ailleurs. Je n'y ai pas pensé. Mais en attendant ce jour béni, en attendant que ce travail perpétuel nous aide lentement à décanter, à séparer le subtil de l'épais, nous sommes toujours aux prises avec nos propres pesanteurs en attendant. Le miracle du texte, c'est une suite toute simple de petits procédés qui nous sont confiés comme ça et qui nous aident à nous débarrasser de nos lourdeurs, pas en nous occupant de celles des autres, en s'occupant chacun des siennes, bien sûr. Il ne s'agit pas de perdre un peu de poids, mais de chasser de nos propres pratiques ce qui nous rend la vie invivable, ce qui rend nous-mêmes lourds pour nous-mêmes et pour les autres, notre injustice fondamentale, notre prétention, puisque nous ne pensons qu'à nous. Mais une fois que ces méthodes se mettent en place, elles travaillent littéralement en nous, hein, comme des outils installés et qui fonctionnent tout seuls, il faut résister à l'envie de se regarder pour détecter les menus changements, analyser les résultats. D'abord, renoncer à regarder chez les autres, évidemment, mais aussi ne pas s'arrêter à regarder quelque chose qui est en marche chez nous, le laisser fonctionner plutôt et continuer à avancer. Quand nous faisons cela, nous faisons comme si l'action créatrice de Dieu était un fait passé et nous retombons dans notre défaut habituel. C'est comme ce cycliste qui descend de vélo pour se regarder pédaler. Nous contenter de ce menu changement, tenter de le revivre à l'identique, tout ça, ça ne marche pas. Le tenir pour acquis alors qu'il nous a déjà échappé depuis longtemps, ça ne marche pas non plus. Il faut continuer, nous sommes pris dans le mouvement, c'est comme ça. Rien à faire, il faut s'y remettre. Et il faut aussi se garder de l'illusion d'être en prise directe et permanente avec ce mouvement créateur qui entraîne tout au point de s'y identifier, le mouvement, la vie, le mouvement et l'être. J'ai repris de l'apôtre Paul cette formule tout à l'heure, le mouvement et l'être, c'est moi. Vous voyez le niveau de prétention qui peut être le nôtre. Ce n'est pas forcément le cas, nous ne sommes pas collés en permanence à ce mouvement. Parce que de temps en temps, il nous arrive aussi de prendre la tangente, d'être essoré justement, ou centrifugé. Il y aurait à sortir de nos caves ou de nos greniers des centaines d'histoires qui montreraient sûrement que nous avons agi seuls ou prétendu être inspirés, alors que nous étions englués dans nos ornières habituelles, aveuglement, injustice, prétention. Enfin, nous sommes des animaux routiniers. Nous avons besoin que nos morales et nos croyances aient une durée de vie raisonnablement longue. Si elles deviennent obsolètes trop vite, nous sommes nous-mêmes perdus parce que nous avons nous-mêmes dit ou écrit. Pourtant, chaque matin qui se présente est un nouveau commencement à saisir après plusieurs heures d'absence. Nos alternances de veille et de sommeil sont une image bien simple de ce qui se passe dans notre esprit. C'est toute l'imperfection de notre présence épisodique au monde qui apparaît en même temps que la nécessité, le matin, de nous reconnecter avec ce monde qui n'a pas arrêté de tourner et qui nous attendait. Abélard écrivait au XIIe siècle, « Ce n'est pas la quantité de tes paroles que je mesure, mais la fécondité du cœur d'où provient ce que tu dis. » Le plus grand miracle en nous, sûrement, c'est cette conscience aiguë que nous sommes des apprentis jardiniers. Adam et Ève ont peut-être été chassés d'un jardin, c'est vrai, mais c'était pour aller cultiver le sol et enfanter ailleurs. Il y avait déjà tout un monde à faire. Nous ne faisons, nous, que continuer cette création jusqu'à ce qu'elle soit ramener à ce qu'elle doit être, d'une manière ou d'une autre. Et quand nous nous y employons, à ce moment-là, nous portons de bons fruits. Amen.